Les podcasts de Radio Vatican.
L'armée pakistanaise a annoncé mercredi le lancement d'une opération antiterroriste dans l'ensemble du pays après une série d'attentats suicides qui ont fait plus de 100 morts la semaine dernière. Cette campagne, intitulée « Élimination de la violence », va impliquer l'ensemble des forces aériennes et navales ainsi que les forces de l'ordre de toutes les villes du pays. Avec la menace nouvelle des groupes affiliés à l'État islamique, le Pakistan fait face à une nouvelle vague de déstabilisation. Mais surtout, l'armée et les services secrets semblent toujours sous-estimer la dangerosité réelle des groupes talibans, avec lesquels d'ailleurs l'État pakistanais joue parfois un jeu trouble. Georges Lefeuvre, chercheur associé à l'IRIS, anthropologue et fondateur de AFPAC Research, rappelle que la porosité des zones tribales à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan rend la lutte antiterroriste extrêmement délicate.
Qui ont attaqué dans le Sindh il y a quelques jours, qui ont fait un nombre de morts malheureusement considérable, ils ont attaqué un mausolée. Et ce n'est pas la première fois, ce ne sera malheureusement pas la dernière fois. Nous sommes dans une zone, dans la zone du Sindh, où les soufis sont tout à fait majoritaires. Je dirais même que le soufisme, c'est presque l'identité musulmane du bassin de l'Indus, donc du Pakistan, avant tous ces soubresauts depuis les années 70, 80, 90. Et donc ils s'attaquent aux soufis parce qu'ils considèrent que c'est une secte impie, c'est une secte hérétique, parce qu'ils pratiquent justement le culte des saints. Et pour un radical wahhabite, le culte des saints, c'est déjà ériger un être humain à un niveau de semi-dieu, si je puis dire, de faire rentrer dans l'espace de la divinité. Et comme il n'y a de dieu que Dieu, bien évidemment, ceux qui pratiquent le culte des saints sont des hérétiques. Et ils ne sont ni les premiers ni les derniers qui en pâtiront. C'était par le même mécanisme que des mausolées à Tombouctou avaient été attaqués il y a 2 ou 3 ans par les membres d'Al-Qaïda et les familles au Maghreb.
L'actualité d'aujourd'hui, c'est aussi le lancement d'une offensive massive de l'armée pakistanaise. Est-ce que cette armée pakistanaise est aujourd'hui un partenaire fiable dans la lutte antiterroriste? On avait dit, après le 11 septembre 2001, que les services secrets pakistanais, notamment, jouaient un peu un double jeu avec les talibans. Est-ce que cette critique et cette inquiétude-là, elle est encore valable aujourd'hui?
Oui, bien sûr, mais je dirais que le Pakistan s'est fait prendre un petit peu à son propre jeu, parce que les Pakistanais, donc les militaires particulièrement, ont toujours pensé, avec un petit peu de morgue, un petit peu de hauteur, qu'ils auraient parfaitement contrôlé toujours les talibans comme étant un mouvement un petit peu à leur solde. Voilà, mais ils n'ont pas suffisamment pris la mesure dès le début des années 2001, 2002, 2003 que les talibans allaient s'acoquiner avec les groupes d'Al-Qaïda que eux ne contrôlent pas. Donc c'est un petit peu l'arroseur arrosé, parce qu'au fond, s'il y a beaucoup de terroristes en Afghanistan, le Pakistan a payé un tribut presque plus lourd encore si on prend les années 2007, 2008, 2009. Et malheureusement, la réponse militaire peut être une réponse partielle, mais n'est jamais la réponse au fond du problème. Souvenez-vous, à 2014, l'armée est rentrée massivement dans le Waziristan et tous les militants internationaux, donc Jamaatul Ahrar ou Ahrar-ul-Hind, tous ces groupes-là, ils sont passés en Afghanistan.
Aujourd'hui, on a globalement une convergence entre les groupes islamistes locaux et l'État islamique, ou plutôt une rivalité sur laquelle, justement, encore une fois, les services secrets pakistanais pourraient tenter de jouer.
L'État islamique est beaucoup moins puissant qu'on ne le croit ou qu'on ne le dit. Les talibans ont marqué beaucoup, beaucoup de points cette année, et entre autres, c'est d'ailleurs assez étonnant, même les Iraniens très chiites commencent à considérer que les talibans sont des gens à prendre en considération. Les Russes disent également la même chose. La raison pour eux étant qu'ils se battent contre l'ennemi qu'ils ont en commun, qui est Daesh. Bon, mais en réalité, même un rapport récent du Conseil de sécurité des Nations Unies nous indique que Daesh, dans le Mandala, en Afghanistan, qui est véritablement son fief, ils sont passés de quelque 2000-2700 à moins de 700 ou 800. Ce n'est pas une force aussi puissante qu'on ne veut bien le dire, mais sous l'appellation État islamique, il y a un tas de groupes qui peuvent agir. En l'occurrence, c'est le Ahrar-ul-Hind. Ahrar-ul-Hind, ça veut dire la libération de l'Inde. Donc là, on est bien dans l'international. Ce sont des radicaux qui prennent acte d'un hadith, donc d'un dire du prophète, qui est d'ailleurs controversé par pas mal de théologiens, selon lequel la fin des temps, on est tout à fait dans une logique apocalyptique, hein, selon lequel la fin des temps serait visible lorsque l'Inde serait libérée. Ça nous paraît loin, l'Inde, mais oui, mais en Arabie Saoudite, on savait déjà à l'époque de Mohammed où était l'Inde. Lorsque l'Inde serait libérée, c'est-à-dire islamisée, ce serait le signe de la fin des temps. Et ils disent aussi que cette offensive de l'islam pour libérer l'Inde viendrait de Khorasan. Khorasan, avant que l'Afghanistan n'existe, c'était cette province très vague qui allait à peu près de Téhéran jusqu'aux rives de l'Indus. Et ces groupes-là, Aral-Ourind, Libération de l'Inde, s'appelle aussi Khorasan Province, c'est-à-dire la province d'où se fera la libération de l'Inde et, en gros, le terrorisme international tous azimuts pour imposer une vision extrêmement radical d'un islam qui n'existe d'ailleurs pas dans le peuple pakistanais.
Est-ce qu'on a une idée de la part de la population pakistanaise qui est perméable à ces idéologies extrémistes, ou est-ce que ça reste vraiment une infime minorité, encore une fois, un extrémisme d'importation, pourrait-on dire ?
C'est heureusement et malheureusement pour eux qui en souffrent une infime minorité. Le Pakistan compte aux alentours de 200 millions de personnes, ce qui fait la spécificité de l'islam au Pakistan dans ce bassin de l'Indus. C'est justement un islam soufi, donc plus mystique que combattant. L'islam populaire est un islam très tolérant et très pacifique. En revanche, les élites du pays ont joué un jeu pas toujours très, très clair. On a toujours sous-estimé un petit peu ce pays qui est né avec cet héritage colonial anglais. Il avait un peu les vêtements de la modernité, des gens bien sous tout rapport qui ont fait leurs études à Londres ou ailleurs. Mais dès la constitution du Pakistan en 1947, le Jamiat et Islami, par exemple, donc, qui est un parti très puissant, qui l'est encore, un peu moins qu'avant, le chef Mahmoudoudine, disait non, on n'a pas besoin d'une assemblée législative, puisque nous avons la choura, on n'a pas besoin de faire la loi, puisqu'on a déjà la loi. Alors il avait accepté, cependant, qu'une assemblée nationale existe, mais qu'elle n'était pas élue, c'était des olémas, donc des docteurs de la loi, qui auraient été nommés, ça s'est passé comme ça, mais enfin, qui auraient été nommés, pour pouvoir faire l'interprétation de l'islam pour s'adapter au monde moderne. Mais on voit donc que les élites, les courants musulmans politiques de l'élite pakistanaise sont des gens, à défaut d'être des radicaux comme les wahhabites d'Al-Qaïda le sont, restent des fondamentalistes et bien entendu sont tout à fait intraitables avec les minorités, y compris les minorités musulmanes, comme la secte Ahmadiyya qui a été déclaré un jour constitutionnellement non musulmane, alors que ce sont des musulmans, envers les chrétiens évidemment, et puis je ne vais pas dire envers les chiites, parce que les chiites représentent 20% de la population, et les attaques contre les chiites sont plus le fait de radicaux wahhabites. Mais bien sûr, le sens du blasphème est quelque chose d'extrêmement prégnant au Pakistan, et les gens qui modernes veulent débarrasser la loi de cette loi contre le blasphème paye un tribut très cher. On pense au gouverneur du Punjab qui avait voulu supprimer cette loi contre le blasphème et qui s'est fait tuer de 30 balles dans la peau dans plein milieu d'Islamabad.
Un entretien réalisé par Cyprien Biette.